Bonsoir à toutes et tous, l'heure est grave, et ce soir on parle cinéma avec le très cher, l'inégalable, le splendide, le lumineux Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Oh, bonsoir Gaspard.
Un épisode spécial 7ème art pour attaquer un film a priori inattaquable, tout simplement parce que pour la très grande majorité des spécialistes, enfin des mecs comme toi Raph, il s'agit là d'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma mondial. Sans doute le plus grand film français ever. Ce soir, on parle de La Règle du Jeu de Jean Renoir.
Exactement, mais merci Gaspard. Et puis déjà, merci à vous de nous retrouver. Je veux dire, merci aussi à tous ceux qui ont liké nos pages. Ça, c'est très cool.
Ah, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Puis moi, du coup, on m'a reconnu dans la rue.
Ah ouais, déjà ?
Non, sans déconner.
On a reconnu ta voix ?
Ouais, il y a un mec qui m'a dit « c'est toi le connard qui garde ta Clio sur mon emplacement, là, putain ?» Ouais, je te jure, on m'a reconnu dans la rue, quoi.
Oui, c'est moi, vous écoutez l'émission. Mais de quelle émission tu parles?
Casse-toi, je te défonce, toi et ta Clio pourrie. Bon, il était pas très sympa, mais il m'a reconnu. Hein, voilà.
Je te vois trop partir en bagnole et télécharger l'application sur iTunes.
Donc voilà, merci de nous retrouver pour la règle du jeu.
Merci à ma tata d'avoir écouté
et de m'avoir engueulé pour la place de Clio.
C'était ma tante en fait.
C'est ça. Donc t'es pas le pote de Gaspard un peu chelou là, le petit con?
La règle du jeu de Jean Renoir, et qui dit Jean Renoir dit présentation de Jean Renoir. Jean Renoir, il est né le 15 septembre 1894 à Paris, il est fils de peintre en bâtiment, il s'intéresse au cinéma après avoir servi durant la Grande Guerre, et commence à écrire pour d'autres cinéastes dans les années 20. Il passe à la réalisation avec des premiers essais qu'on peut qualifier un peu d'impressionnistes, si ce n'est impressionnant.
Oh,
parce que j'ai écrit cette intro. Avant d'enchaîner sur un cinéma bien plus réaliste dans les années 30, il devient rapidement l'un des cinéastes les plus en vogue, surtout voilà, connu pour son style très très réaliste. Mais un petit peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, il va sortir deux films qu'on va considérer aujourd'hui comme majeurs.
Le premier, c'était Mon ami Adolphe, qui lui a valu une certaine tranquillité pendant la Seconde Guerre. Ça lui a valu beaucoup de tranquillité pendant une certaine période.
Eh ben, tu te trompes, justement. Il sort La Grande Illusion en 1937, puis La Règle du Jeu en 1939. Donc, c'est un premier film sur les possibilités, justement, de liens fraternels, des liens de classe au-delà des frontières, puisque ça va être un film sur des relations amicales pendant la guerre entre des Français et des Allemands. Justement.
Il a été fusillé à la Libération, on vous rassure tout de suite, hein, pour avoir osé dire que...
J'allais dire Jean Renoir va bien, mais Jean Renoir ne va pas bien. Jean Renoir est 6 pieds sous terre, malheureusement. Et un second, au contraire, sur l'aveuglement de certaines de ces classes sociales face aux dangers qui s'avançaient au niveau international. Il va finir avec au compteur plus d'une trentaine de longs métrages, 2 pièces de théâtre et 3 romans. Là où toi, Raph, on l'a déjà dit, tu n'as qu'une ceinture de judo.
Bah, pas que la ceinture, j'ai aussi le prix Nobel de littérature pour justement ma disserte sur le judo.
Comme on est en train de créer un comic universe, l'heure est grave, de dingue. Et comme quoi, rien ne sert de courir, il suffit d'arriver à temps à la cérémonie des Oscars en 1975, où il reçoit un Oscar d'honneur, et il meurt 4 ans plus tard à Los Angeles. Alors, je sais pas s'il a mis 4 ans à rentrer, ou s'il s'est dit qu'il fallait mourir une fois qu'on avait l'Oscar d'honneur, mais en tout cas, il est mort au même endroit où il a eu son Oscar.
Ah bah, à l'époque, c'était très long les trajets, donc c'est peut-être bien 4 ans qu'il a mis pour rentrer. Hein. Et on va surtout parler du coup de ce qui est considéré, c'est toi qui l'as dit, mais comme un des meilleurs films français.
C'est moi.
C'est un petit peu notre Citizen Kane à nous. D'ailleurs, c'est normal parce que ça s'appelle Citoyen Kane, en fait. Hein, c'est le Citoyen Kane, voilà. Donc, c'est Citizen Kane, en fait.
Bon, il n'y a pas de personnage, mais on s'est dit que pour l'export, c'était plus intéressant.
C'était beaucoup plus facile comme ça.
Ils l'ont changé aujourd'hui, ça s'appelle Star Wars 2.
Oui, ouais. Ils le ressortent, là, je crois, la semaine
prochaine. En 3D.
Ah, c'est ça,
ils vont pas être déçus, les gens, dis donc.
Oh, putain. Donc, on est sur un film assez audacieux pour l'époque. Là, je faisais la comparaison avec Citizen Kane, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a vraiment des tentatives au niveau de la manière dont on va filmer, de la manière dont on va également raconter l'histoire. C'est très très ambitieux dans ce que ça veut décrire et dans la manière que ça a de le raconter, Gaspard.
Mais c'est vraiment ça, surtout que ça raconte tellement bien ce que ça veut raconter, c'est-à-dire son époque, que ça a été très mal accueilli, dans le sens où il y a eu un vrai miroir pour les gens de 1939. Pardon, excusez-moi, je rigole. Il y a eu un vrai miroir pour les gens de 1939 qui ont vu en fait...
Ils sont tous vus avec une petite moustache, ils ont eu très peur.
Bah, il y en a qui ont bien aimé, en tout cas.
Oui, il y en a 2-3, ils étaient, c'est pas trop mal.
Bah oui. Et donc un film qui a été assez mal accueilli à sa sortie, puisque en fait l'idée de Renoir lorsqu'il a fait ce film, c'était vraiment de dénoncer ce qui était en train de se produire en Europe, dans le monde, d'essayer d'avertir tout le monde, de dire voilà, tout le monde est aveugle, il est en train de se produire prochainement éventuellement un drame, et malheureusement il a eu raison, et il a tendu un miroir face à cette société. Ça a vraiment, voilà, les gens n'avaient pas envie de se voir aussi bien décrit et de si mauvaise manière, et je me dis que mieux que d'en parler nous et d'en parler mal, celui qui en parle le mieux, c'est Jean Renoir.
Ça m'amuse beaucoup de parler de la règle du jeu, parce que c'est évidemment, de tous les films que j'ai faits, celui qui a eu le plus gros insuccès. La règle du jeu à sa sortie a été une tape absolument magnifique. J'ai eu pas mal de tapes dans ma vie, mais une tape comme celle-là, je crois que je n'en ai jamais eu. C'était vraiment très réussi, complet, parfait. Un jour, je présentais, il n'y a pas très longtemps, je présentais la règle du jeu à un auditoire de jeunes gens en Amérique, à New York, dans une école. Et certains de ces jeunes gens avaient entendu parler de la règle du jeu, avaient entendu parler de la réception de la règle du jeu à Paris, et l'un d'eux me demanda, « Dites-moi, monsieur Renoir, pourquoi peut-on dire que ce film est controversial ?» Je dis controversial, traduisant mal l'anglais, de l'anglais au français. Alors je lui ai répondu, « Écoutez, monsieur, ce film peut être considéré comme controversial pour la raison suivante. À la première du film au Colisée, j'ai vu un monsieur, un spectateur, qui très gravement déployait un journal, sortait une boîte d'allumettes, craquait l'allumette, mettait le feu au journal, avec l'intention absolument évidente de ficher le feu à la salle. Eh bien, je pense qu'un film qui provoque de telles réactions est un film controversiel. »
Alors déjà, on va vous résumer peut-être un peu ce qui se passe dans ce film. Globalement, c'est l'histoire du coup d'un groupe de personnages un petit peu huppés d'un côté et de l'autre, des bourgeois, et de l'autre, on va avoir des...
Excuse-moi, mais juste déjà, si on s'arrête là, un petit groupe de gens huppés, pour moi, c'est les petits mouchoirs, hein, direct. C'est les petits mouchoirs de Jean Renoir. Là.
Alors attention, on ne parle pas du tout des petits mouchoirs, vous pouvez rebrancher le podcast. Hein,
si c'est... ça peut vous donner envie de regarder le film, pour vous, les gens qui aiment bien les petits mouchoirs, allez-y, hein. Alors, ça ne vous fera pas de mal. Hein.
De regarder la règle du jeu, pas les petits mouchoirs.
Oui, non, évidemment.
Qu'on vous déconseille fortement.
En revanche, les gens qui ont aimé la règle du jeu, on vous conseille pas du tout les petits mouchoirs.
Voilà,
c'est pas un truc qui va dans les deux sens.
Vous risquez d'être un poil déçu. Bon, quoi que c'est assez
tu
ambitieux aussi.
La Cinémathèque française qui réalise
ce soir soudainement
que Guillaume Canet démonte Jean Renoir.
Du coup, on a d'un côté ces bourgeois et de l'autre, on va avoir les domestiques qui vont vivre chacun un petit peu leurs amours de leur côté et ils vont se rencontrer et puis voilà, ça va être un petit peu. Alors, c'est traduit comme une comédie romantique, un petit peu, c'est une rom-com.
Bah, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que, en fait, le film ne va jamais être... Enfin, le film n'est jamais ce qu'il présente. C'est-à-dire qu'il va se vendre et se présenter comme une comédie, là où, pour moi, c'est vraiment une tragédie. Personne n'est innocent, tout le monde calcule à balle sa trajectoire. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça veut être une comédie, ça a la forme d'une comédie. Et même mieux, tu vois, Renoir, il le dit, il le qualifie lui-même, il dit que son film, c'est un film de guerre, en fait. Parce que c'est un film... Ah ouais, il le dit, hein, ce texto, je paraphrase. Il dit c'est un film de guerre parce que, voilà, moi, je veux parler de ce vers quoi on court en 1939, c'est-à-dire vers la guerre. Il voyait que la société tournait pas rond, et il s'est dit, je peux pas faire un film pamphlet où je dirais... Asseyez-vous, je vais vous expliquer pourquoi ça part en couille.
Bah en fait, il le montre de manière un petit peu détournée, en montrant
Il le montre en le montrant pas, c'est-à-dire en montrant des gens qui n'en ont rien à foutre de rien.
Ouais, c'est ça.
Et c'est le projet d'origine de Renoir, c'est-à-dire il s'est beaucoup inspiré des caprices de Marianne, en se disant voilà, je vais présenter une petite comédie, un petit truc à marivaudage, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce marivaudage est là pour camoufler quelque chose, parce que les personnages cherchent tous à se cacher la vérité, c'est-à-dire ils font attention à rien si ce n'est à leur petit monde, et personne ne veut s'écouter, personne ne veut s'arrêter pour parler, parce qu'ils sont tous là pour servir leurs propres intérêts, alors que le pays entier court à la catastrophe. Quoi.
Exactement. Mais c'est un petit peu voilà, ce qui va nous lancer sur le film, puisqu'on va avoir cette histoire, en fait, les amours de ces gens un petit peu, et qui vont conduire peu à peu vers un drame qui se construit au fur et à mesure du film. Et je te propose, Gaspard, que l'on attaque du coup le récit de la règle du jeu.
On démarre sur un aérodrome avec la journaliste la plus années 30. Même aujourd'hui, on parodierait, je pense, les années 30, on pourrait pas faire mieux. Avec un plan séquence assez dingue, moi, je trouve. Ouais. On va suivre cette journaliste qui traîne son fil de micro jusqu'à André Jurieu,
l'aviateur,
voilà, qui vient de se poser après une traversée de l'Atlantique assez dingue.
En 3 jours, je crois. Non,
même pas, en une journée. Il y a un truc en 3 jours.
En 3 jours.
Ah ouais, je me suis arrêté 4 fois. Ah, vous êtes un vrai héros, monsieur. Alors,
c'est-à-dire qu'il y a des fois, je dormais. Je mettais en pilote automatique, ça marche très bien.
Je suis parti, j'ai fait New York, le haut de New York, le bas de New York,
et après,
le bas de New York à Paris.
Et après, j'ai foncé. Bon, ça prend 3 jours, en tout cas.
Bah, ça déconne pas. Il a poussé l'avion, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est pour
fait,
ça que ça a mis 3 jours.
Il le fait à pied, bah, oui. Et puis après, il dit, bah, j'y vais, je vole, quoi.
Il est accueilli en héros, cet André Jurieux.
Alors, il est accueilli en héros comme un petit peu ses tontons du bled, hein, qui arrive avec les sacs.
C'est un petit peu ça, il y a tout le monde qui vient le voir. C'est en plein milieu de la nuit.
Tonton, qu'est-ce que tu ramènes ?
Tout le monde est là en mode, genre, à te dire que c'est son meilleur ami alors qu'il connaît personne. Sauf Octave. Octave qui est joué par Jean Renoir, qui arrive, qui se tombe dans les bras et ils se disent, ah mon vieux, je suis trop content de te voir et tout, bravo pour ce que tu as fait. Et André, il demande à Octave, il dit, mais est-ce qu'elle est venue ? Et Octave de lui répondre, bah non, elle a pas pu venir. Là, la journaliste arrive, fout le micro devant André.
Alors BFM TV avant l'heure. Hein,
c'est exactement ça, qui se tape un putain de bad à dire qu'il a trop les boules parce qu'il a fait que ça pour draguer une meuf qui n'est même pas venue, parce que c'est pas un truc où y a pas Facebook, y a rien, c'est-à-dire que dans ce cas-là, moi aussi en 39, je peux venir voir les gens et leur dire ouais, j'ai traversé l'Atlantique. C'est-à-dire que si elle n'est pas là pour le voir atterrir, elle n'a pas la preuve de ça. Et donc en fait, son truc pour l'épater n'a servi à rien. Elle n'est pas là pour le voir.
Donc il a un peu le seum. Il dit elle a été déloyale. Il dit elle m'a manqué. Tu vois, un petit peu comme dans L'Étranger. Du coup, il dit ah, je vais aller me castagner avec des Arabes.
J'espère que ça ne va pas partir comme dans L'Étranger.
Il a un coup de chaud, il fait je suis pas chaud là chez vous.
Et derrière, voilà. Dans le fond, tu vois Albert Camus qui est en train, oh putain, il commence à noter tout ce qu'il voit. Allez,
il est génial ce type.
André Jurieux a grave les boules et en même temps, il est en train de parler à la radio et d'un coup, un raccord assez dingue, on arrive en fait à une personne qui est en train d'écouter la radio.
Alors ça, je sais pas, voilà, si c'était déjà un effet de style qui se faisait à l'époque.
Ah bah, là, mais... on est en 39, c'est-à-dire qu'on est sorti du cinéma muet il y a même pas 15 ans. Ça fait 10, c'est 27 le cinéma muet. Donc ça fait
la fin
12...
du cinéma.
Ouais. Donc non, genre, le raccord sonore, c'est-à-dire ce raccord par la voix du type qui est en train d'être interviewé au poste de radio, on l'écoute. Moi, je trouve ça assez dingue déjà.
Mais il va y avoir plein dans le film de plans comme ça qui sont hyper bien faits, de manière de filmer où tu mets ce qui se fait aujourd'hui beaucoup, c'est que tu mets le sujet important de la scène en premier plan, en flou, et que derrière tu filmes ce qui se passe. Tu vas avoir beaucoup de scènes comme ça qui sont hyper bien faites, de manière de faire des plans larges ou des plans très serrés à contrario pour montrer un petit peu comment les personnages sont enserrés dans l'espace ou au contraire se déplacent avec aisance parce que c'est un milieu qu'ils connaissent. Enfin bref, là je suis en train de réciter les cahiers du cinéma.
Oh.
Est-ce que je suis abonné ?
Je pense que les vrais rédacteurs du cahier du cinéma sont en train de dire qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries les deux là ?
C'est quoi déjà ? Et c'est quoi le film dont ils parlent ? La règle du jeu ? Jamais vu, rien du tout. Ils auraient parlé des petits mouchoirs, ça c'est un grand film ça. Non mais voilà, il y a plein de bonnes idées, enfin d'idées un peu...
Non, visuellement c'est assez dingue, je suis d'accord. Ouais.
En fait ce qui est fou c'est qu'on n'y fait pas gaffe parce que c'est des trucs que du coup on a vu dans plein d'autres films récents et moins récents, mais qui ont été repris et qui sont en gros fondés, et je reparle un peu de Citizen Kane, mais qui sont fondés par Citizen Kane et ce film, qui sont vraiment des fondateurs...
Bah, des idées visuelles, c'est-à-dire que bon, après il y a eu quelques années avant, il y a eu tout l'expressionnisme allemand. Là vraiment je vais faire du name dropping hein, pour pouvoir le caler à un apéro. Expressionnisme allemand, Murnau,
Fritz Lang.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mec a digéré tout ça déjà en tant que spectateur pour pouvoir le recracher en tant que cinéaste. Et c'est vrai qu'il y a des moments, enfin, nous, on a revu le film ensemble il y a 3 jours. Par moments, on se disait putain, mais même aujourd'hui, il n'y a pas des mecs qui seraient capables de penser à un plan pareil, quoi. C'est assez dingue. Et donc, voilà, on revient sur ce raccord radio où. En fait, c'est Christine de la Chenet qui est en train d'écouter à la radio André Jurieux. Et en fait, Christine, c'est la go pour laquelle André en fait, a traversé l'Atlantique.
Alors, on fera un point Christine, hein, parce que c'est la go un peu à tout le monde.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça.
Tout le monde, il la veut.
Christine, en plus, et c'est là où je trouve ça très fort de la part de Renoir, elle est autrichienne, donc une sonorité allemande. Tout le monde se bat déjà pour... Je veux dire, c'est par des petits indices comme ça qu'il va nous balancer ce dont, en fait, il a envie de parler, Renoir.
Moi, je trouve que le meilleur indice, c'est sa petite moustache. Cette manière bizarre qu'elle a de tendre le bras vers le ciel tout le temps.
Ah, tout le monde la veut.
Tout le monde la veut, la
c'est
petite.
C'est vraiment toi la plus belle, Christine.
Puis cette manière qu'elle a d'annexer sa pote autrichienne à côté. Enfin, c'est... Oh, c'est hyper violent. Non, mais il est fin, hein. C'est
tu annexes
finesse.
Ma pote. Tu veux quoi avec ton gigot Anschluss, non ? Pardon. Christiane est donc en train d'écouter les exploits d'André Jurieux et n'est pas particulièrement désolée de ne pas l'accueillir.
Elle s'en tamponne.
Elle s'en tamponne le coquillard, comme on dirait. Elle est en train d'être maquillée par Lisette, sa domestique.
Et elle est très importante, Lisette.
Voilà, elle commence à avoir une petite discussion sur est-ce qu'il faut être fidèle aux hommes et tout. Lisette explique que son mari, à elle, travaille dans la maison de campagne de Madame Christine de la Chenet. Et elle lui reproche pas de pas être allée voir André Jourlieu. Christine sort de sa chambre, va voir son mari Robert, qui est également en train d'écouter la radio, également en train d'écouter l'arrivée d'André Jourlieu. C'est vraiment un événement national, le mec est en train de devenir un putain de héros. Et Robert, en fait, tout de suite, il la calme en lui disant « Écoute, Christine, je sais ce qui se passe entre André et toi, mais je te fais confiance, et je sais que tu ne vas pas tenter un truc avec lui. » En l'état, on est à 5 minutes de film, il a raison, hein, elle n'est pas allée le voir. Nous pouvons continuer à vivre une vie comme ça. On va aller le week-end prochain à la chasse, ça va être sympa.
Alors, j'ai un truc qui m'a un peu interpellé, c'est que c'est avant la libération sexuelle, clairement, des années 70. Enfin, j'ai pas une représentation hyper chatoyante de ce que devaient être les rapports hommes-femmes à l'époque. Et alors là, pendant tout le film, c'est que genre « Moi, j'ai couché avec qui ?» et puis «
C'est une succession de mains au cul, en plus, qui est assez effrayante.
Alors, il y aura un petit moment Balance ton porc.
Sauf que Balance ton porc, en plus, c'est juste Renoir, le personnage d'Octave joué par Renoir, qui fout une succession de mains au cul pendant tout le film.
Aux petites gens.
Non, mais faut le dire, Octave, c'est quand même le personnage ultra, ultra lourdo.
Ouais.
Le mec est là pour se taper l'incruste chez tout le monde.
Voilà, Octave, c'est un personnage qui erre entre deux, donc il est très pote parce qu'il vient, on sent qu'il a
En
fait, voilà, c'est un profiteur. Il a un background social, on sent qu'il est assez limité, mais il a réussi en étant sympa et pote avec tout le monde à vraiment côtoyer. C'est-à-dire qu'il débarque clairement chez le comte en mode t'es sympa.
On n'y est pas tout de suite, ça. Robert, en fait, et moi, il y a un truc tout de suite dans cette scène où il vient de parler avec Christine en train de lui dire, moi, je suis conscient, voilà, que tu as eu cette histoire. En tout cas, que Jourlieu a envie de se mettre avec toi. Et il est en train de lui présenter tout de suite, Robert, à sa femme, sa nouvelle acquisition, sa petite machine, qu'il appelle d'ailleurs très délicatement, et nous sommes en 2017, une négresse romantique.
Alors voilà.
C'est un petit robot, en fait, qui joue de la musique. Et en fait, on va voir que le mec accumule chez lui une succession de petites machines comme ça. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est Renoir qui te dit, en fait, il y a une différence entre les automates, les gens qui agissent vraiment de manière ultra mécanique, et la nature. Et on va voir dans quelques scènes ce qui fait de la nature, l'homme. Et c'est pour te montrer qu'en fait, et c'est pour moi vraiment, c'est ça la règle du jeu, c'est des mecs qui agissent de manière mécanique, paf, pour leur propre intérêt, et qui ont complètement viré de leur esprit l'état de nature, parce que on n'est pas là pour respecter la nature, on est là pour avancer chacun pour son propre intérêt. Une phrase qui va arriver plus loin et qui est vraiment super connue, c'est « tout le monde a ses raisons », quoi.
Exactement. Le cœur a ses raisons, d'ailleurs.
Pouf.
On a également introduit au fait que le comte a lui-même sa petite histoire de côté, c'est-à-dire qu'il va en dîner avec sa zouze, il lui fait, avec la comtesse là, cri-cri autrichienne que tout le monde veut se cogner, ouais. Il lui dit, écoute, attends deux minutes, je passe un coup de tel, bim, il dial le 06 de sa go à lui, enfin, tu sais, sa petite side chick.
C'est tellement, c'est merveilleux, cette manière dont tu veux dire, tu sais, je te fais confiance et tout, laisse-moi juste aller appeler ma maîtresse.
D'ailleurs, il faut que j'aille appeler ma maîtresse, voilà. Donc, il va appeler sa go pour lui dire, hey, je te guélare au téléphone, en plus, il lui envoie même pas un SMS, le mec pas très sympa.
Non, j'avoue, c'est pas hyper cool.
Pas très cool. Et elle finit par le convaincre en disant, non, en fait, tu vas pas me quitter, tranquille, viens, on en parle demain.
Mm.
Donc, il dit ok, on en parle plus tard. Et tiens, d'ailleurs, je t'invite à ma grosse teuf que je vais faire dans mon château de chasse là.
À la Collinière.
À la Collinière, tu vas voir, ça va être d'enfer. Il y a un DJ set de ouf et il y a des poteaux, ils sont tous pétales à
ND. C'est que des gueudins, ouais, on va bien steak là.
Et ça va être ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de ce film, mais qui est la fête à la Collinière. Donc voilà, ils partent dîner et là, on est le lendemain.
Excuse-moi, mais c'est exactement la même construction que les petits mouchoirs avec genre qu'est-ce qui se passe à Paris avant?
Un accident de scout.
Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois en région provinciale?
Eh bah, ben, tout le monde va se frotter.
C'est
tout ça.
Exactement. Moi, je pense que c'était un vrai hommage qu'il a fait.
Mais d'ailleurs, on le voit la manière dont Guillaume Canet joue dans la règle du jeu.
Et tu trouves, il y a un petit hommage à Gilles Lelouch. Bah, d'ailleurs, on en a parlé en voyant le film. Il y a un acteur qui lui ressemble un peu, je trouve.
Ouais, il y a un mec physiquement Saint-Aubin, je crois.
On commence à comprendre qu'il va y avoir une grande réception qui va être organisée à la Collinière. Mais en même temps, on suit la nouvelle adaptation de Jourlieu, donc l'aviateur. Le premier truc qu'il a envie de faire, il est en bagnole avec son pote Octave.
Il décide de le tuer.
De se suicider, voilà. Et en fait,
mais c'est drôle parce
qu'il est la plus normale.
Ah oui.
Il se jette dans le coin de...
se jette volontairement. Alors déjà, sympa pour ton pote qui, lui, a pas forcément envie de mourir.
Surtout qu'il le prend trop bien, son pote est en mode genre « Bon, je comprends que tu veuilles te suicider et tout. »
T'as vu ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Bon, je rentre pas avec toi en voiture. » Mais t'as vu ce que t'en as fait de la bagnole, de toute façon tu rentres à pied mon gars, c'est terminé, elle n'existe plus la voiture.
C'est ridicule cette manière, de... c'est comme si voilà, d'un coup j'ai décidé de foutre un gun devant nous et, je dis... et après tu me dis, oh, écoute je t'en veux pas parce que je comprends que t'as envie de te foutre en l'air.
Écoute, avant de mourir je propose de te tuer. Oh, moyen chaud. Donc on sent que André est un petit peu dépressif parce qu'il a il avait vraiment envie que Christine vienne voir son atterrissage. Je comprends, moi si un jour je peux atterrir un avion, j'ai bien envie que ma maman, mon papa soient là. Ils viennent,
et que Christine d'ailleurs.
Et que Christine aussi d'ailleurs. J'adore ce que vous faites.
On fait tous ça pour une Christine.
Je m'en fous qu'elle soit morte. Vous la déterrez, je veux qu'elle voie ça. Et elle applaudira.
Avec les bruits d'os. Laissez-moi vous embrasser, vous êtes tellement belle.
Christine, qu'est-ce qui nous arrive? Faut pas qu'André le sache.
Laissez-moi vous ramener dans les cieux, au 7e ciel.
Du coup voilà, donc Octave débarque chez les Joibourg parce qu'il a dit à son pote André, écoute, je vais t'arranger le coup avec Cricri, tu vas venir à la Collinière. Et vous allez pouvoir tchatcher.
Comme dans L'Étranger, où les gens se tapaient l'incruste chez les autres via l'invitation. Exactement. De personne, Octave invite André chez Monsieur Robert.
Alors, il va devoir tchatcher Robert pour ça. C'est-à-dire que déjà, t'as Octave qui arrive en mode méga, ultra grosse nuisance. Genre, salut les petites, il met des mains au cul aux meufs.
Qui commence à demander un déjeuner aussi.
Oui, il demande un petit déj.
Je prends une bouteille de blanc et tout.
Voilà. Donc, t'as quoi, toi? Château Latour, c'est pas mal. Bah, tu mets ça.
Mais c'est quoi, c'est une télé, ça? Je vais la prendre aussi, ouais.
Ouais, putain, ta culotte, là. Il est hyper, hyper.
Il n'y a pas de balance tampon chez moi.
Mais tu vois, on sent le bourgeois qui est un peu content, qui est en mode genre. Il est quand même rigolo, le petit Octave.
Ah ouais.
Il anime bien la maison. Il anime bien la maison. Donc, Octave arrive, il chatte Robert, il écoute, Robert, ça serait pas mal qu'on invite André. Robert lui dit non, mais attends, parce que c'est pas très cool.
C'est quand même le mec qui essaie de pêcher ma femme.
Voilà, donc t'es gentil, mais tes idées, tu peux te les carrer où je pense. Mais il arrive finalement à le convaincre en disant non, mais écoute, ça va le faire, te fais confiance à Christine, pas de soucis. Je te jure, c'est pas parce qu'elle a une armée qu'elle va envahir la Pologne. Y a pas de problème, regarde.
On voit bien sa moustache.
Voilà, en plus, elle a fait un pacte avec la Russie. Y a pas de. Ah, oh, pardon, excusez-moi, je parle de complètement autre chose.
Faut le dire aussi. Faut voir que l'actrice qui joue Christine, elle a, mais c'est pas un accent, c'est le pays entier qu'elle a sur la langue. Et on entend
c'est
que ça.
C'est très lourd d'ailleurs, pour la petite. Hein.
Oui, Christine, vous êtes tellement belle.
J'aurais tellement voulu que vous soyez là pour l'atterrissage. Vous ne pouvez pas vous lire.
Et donc oui, donc elle a un accent assez prononcé.
Donc,
Il la rend, excuse-moi, je trouve, peu attirante. J'ai peu d'attirance pour les femmes allemandes des années 30.
Alors voilà, les femmes allemandes dans les années 30, à part Marlene Dietrich, bof.
Et Maria Braun.
Ouais, elle... Non mais elle est prise, elle. Elle a un
Christine. Cœur. C'est Christine.
C'est Christine en fait, c'est ça. Avec la petite moustache, il a l'air sympa, tu sais, avec ses culottes bavaroises.
Il avait un projet elle aussi, non?
Oui, il avait un truc, je sais plus quoi. C'est notre projet. C'est
un projet.
Ah, il était visionnaire pour l'époque. Hein.
Ah bah attends, à la règle du jeu.
Et du coup,
c'est juste quand il a entendu le nom du réalisateur, Jean Renoir.
Renoir.
Ah d'accord, j'ai peur.
Ok, c'est bon, ça passe. J'ai eu peur, il se passe d'un instant. Donc c'est bon, il a réussi à incruster son pote à la Collinière. Et c'est ce qui va conclure notre première partie.
J'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou.
Ça t'avancerait à quoi?
Bah, ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable. C'est que tout le monde a ses raisons.
Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières et contre les murs.
Et là, je trouve que c'est par un effet, enfin, de scénario qui est tellement malin. C'est-à-dire que nous, on a déjà connu Lisette, qui était donc la domestique de Christine. Et en fait, ils arrivent à la Collinière et vient la voir son mari. Donc, elle se plaignait que son mari vivait à la Collinière. Son mari vient la chercher et en fait, l'emmène tout de suite au sous-sol. Et en fait, d'un coup, on est introduit à tous les autres domestiques, c'est-à-dire aux cuisiniers, aux servants, tous les gens qui vont servir dans le château. Et je trouve que c'est un raccord de dingue. C'est-à-dire d'avoir utilisé l'idée qu'ils soient ensemble pour nous l'amener ensuite. Pas un truc genre « Oh, je vais descendre au second sous-sol pour aller voir qui se cache en bas. Enfin, » c'est une idée d'écriture que je trouve vraiment super maligne.
Après cette introduction des domestiques, on va suivre un petit peu les deux groupes qui vont se chevaucher puisqu'on va être introduit au personnage de Marceau, qui est un braconnier qui pose du coup des collets pour récupérer des lapins sur le domaine du comte de La Chesnaye.
Il travaille au service de Georges. Pour des souris et des âmes.
Oui, c'est ça. Ils lui ramènent des petits lapins. Bon, ils sont très doux, mais alors, par contre, ils bougent un peu moins, quoi.
Putain de cinématique univers.
Exactement. Tout est lié. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que Lachenay a un gant rempli de vaseline.
Oui, c'est vrai. Et que PNL joue à la fin de...
Les Sarrasins ! Tirez sur les Sarrasins ! Oh, du calme, gros. La vie de ma mère, tu as fumé un peu tard, tu vas te calmer. Du coup, ce qui se passe, c'est que Marceau se fait choper la main dans le sac par le mari de Linette, qui est le garde-chasse, et qui, on a l'impression, ils se connaissent un petit peu, c'est un petit peu, là, moi ça m'a fait penser aux Looney Tunes entre
y a un petit truc comme ça.
Entre Bugs Bunny et le chasseur, qui se court toujours un petit peu après. Et là, du coup, le garde-chasse met la main sur Marceau et il va l'amener au propriétaire des lieux, qui est là pour le coup, qui est le comte de Lachenay. Et le comte de Lachenay, bah, il trouve ça hyper gaulerie, il a de l'esprit, il est marrant, voilà. Du coup, il dit, bah, écoute, garde-chasse, tu sais quoi, le petit braconnier, je vais l'embaucher comme domestique. C'est quand même le meilleur entretien d'embauche de tous les temps.
Putain, ouais.
C'est à vous la caisse que j'ai défoncée en bas en arrivant.
Vous allez devenir mon chauffeur maintenant.
Dis donc, t'as du cran, gamin, ça me plaît, ça. Marceau, c'est un énorme thug, et du coup, il se fait embaucher comme domestique.
Et alors, surtout, moi, je t'interromps, parce que je trouve qu'en fait, il y a deux choses à relever ici. C'est que, t'avais raison, je trouve, dans ce que tu dis, il y a un truc un peu Looney Tunes entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore dans cette première partie du film où Renoir nous fait vraiment encore croire qu'il s'agit d'une comédie.
Oui, parce que c'est-à-dire qu'il y a les Toons, hein, quand même. C'est pour ça qu'il...
c'est-à-dire que le fait que Bugs Bunny joue André Jurieux...
Ouais, c'est un peu bizarre.
Non, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est...
Pourquoi elle n'est pas venue, docteur? Pourquoi elle n'est pas venue?
Il y a un truc vraiment assez bouffon. Voilà, il joue au chat et la souris sur le domaine de la collinière. C'est un truc assez drôle, ce moment où il se fait choper et puis que le comte lui dit « Non, non... » Nous, on aime bien les gens qui chassent les lapins sur nos terres. Gardez-le, faites-en un domestique. Et en même temps, d'un coup, on voit le personnage de Marceau qui va arriver, qui va taper l'incruste chez les domestiques. Il va aller en bas, il va se taper l'incruste pendant le déjeuner avec tous les domestiques.
Oh, il se prend de la bouffe direct.
Sauf que Marceau, moi, je trouve, et je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que on a l'impression que lui, la règle du jeu, il l'a vachement bien comprise depuis le début. Il sait comment il faut parler à telle personne de telle manière. C'est le mec qui a tout capté, quoi.
C'est pas faux.
Et c'est ça, pour moi, la règle du jeu, c'est ce truc où on n'a plus rien de naturel. Enfin, vraiment, Marceau, c'est celui qui est là pour piéger les lapins. Donc, vraiment, il est à l'encontre du naturel. Et il est là, le mec a tout capté, quoi. C'est-à-dire qu'au propriétaire du domaine, il faut lui parler de telle manière. Au garde-chasse, il faut lui parler de telle manière.
Faut lui piquer sa femme.
Au domestique, il faut être un peu séduisant et donc dragouiller la Lisette.
Oh, il la dragouille pas, il la bouffe,
c'est de la bouche. Hein, c'est... Mais bon, ça, après, on est dans la drague des années 30, tu vois. C'est...
Putain, ouais, balance ton porc, quoi. C'est ça. Parce que là, c'est littéralement, t'as littéralement une scène, on y viendra après, où il la poursuit, elle a dit non merci, du coup, il met une main au
cul. Lui, il entend non merci, il entend oui, s'il vous plaît.
Voilà, c'est ça, il dit écoute, je t'ai dit non, je le redis une deuxième fois. Et puis, du coup, il fait quoi? Il fait bah écoute, je vais essayer de t'enlever ta robe tout de suite. Voilà.
Non, c'est assez violent, mais moi je.
Et ça, t'as Jean Renoir derrière qui est en train de piaffer, vas-y, mets-lui la main sur la culotte, là. Elle a dit non, je crois. Mais je crois d'ailleurs que Renoir, c'est le père de Weinstein, en fait. Hein.
Exactement.
Ouais, voilà. Ouais.
Bah, c'est que des fils dedans chez les Renoir.
Exactement.
Mais du coup, voilà, moi je trouve que Marceau a ce truc, vu qu'il a déjà capté, et en fait, via son personnage qui est quasiment un des seuls qu'on va découvrir en fait à ce moment du film, parce que la première partie, comme racontait Raph, nous a permis de connaître quasiment tous les personnages. Marceau, c'est le seul qui arrive au château, on est déjà au premier tiers du film, et c'est un mec qui a déjà tout capté, quoi. C'est le mec qui va jamais être surpris de ce qui se passe, et qui va tellement pousser les limites, c'est-à-dire que voilà, il va commencer à draguer la femme du garde-chasse, Raph le disait, le garde-chasse va le menacer de mort, mais pendant tout le film, et le mec n'en a rien à battre, parce qu'il sait comment s'en sortir, en fait.
Ouais, il est très malin là-dessus. C'est sûr qu'en fait, il détonne complètement dans le truc. On sent que c'est quelqu'un qui sait parfaitement évoluer. Mais au même titre qu'Octave, il sait parfaitement évoluer dans ce milieu.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'Octave aussi, quand il fait son entrée chez le comte au début du film, il est hyper pote. Tous les domestiques sont là pour l'accueillir parce que c'est le bon copain. Bon, il est peut-être là aussi, ils sont peut-être là aussi parce qu'ils ont envie de se prendre des mains au cul, hein, parce qu'apparemment...
Ah, c'est vrai.
Ça, c'est un grand truc de se mettre.
À l'époque, le hashtag, c'était « Ramène ton porc ».«
Ramène ton porc ». Ramène ton porc en soirée.
« Ramène ton porc,
s'il te plaît. » Alors, je vous prends mon petit. Alors, attention, il est bien lourd. Il adore. Il a les mains maladeuses. Hein, alors,
Et samedi, j'amène un pote, Harvey. Il va vous mettre bien.
Putain. Il va vous rincer les potes. Du coup, on sent, voilà, c'est un mec un petit peu qui a compris comment ça se passait au même titre qu'Octave, et les deux, d'ailleurs, ne se parlent jamais.
C'est vrai, ils se croisent jamais.
Parce que peut-être, c'est une théorie, ils savent ils, pratiquement au mais premier,
c'est
premier
vraiment,
coup d'œil
ouais,
qu'ils sont, bah, qu'ils sont tous les deux, ils évoluent de la même manière. Et tu vois,
c'est vrai, ouais. Les deux, ils ont capté le truc.
Donc, suite à un petit peu cette mise en place à la chastinière, là, je sais pas comment ça s'appelle.
À la fistinière, du coup. Oui. Ça, on propose un week-end. Il a fait venir 30 personnes. Hein. Les domestiques, ils sont...
Et la règle du jeu.
La règle du jeu, c'est la règle de moi.
Ils font un safe word. Voilà. Du coup, il n'y a pas de safe word. Et ceux qui n'avaient pas de safe word non plus, c'est les animaux, puisqu'on va passer à la chasse. Et alors, eux, bah, ils ont beau gueuler tout ce qu'ils veulent. Galipette, je dis. Ils se prennent. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien à cause du coup de feu. Bon, dans le doute, hein, je tire quand même. Donc, ils se font une bonne grosse partie de chasse. Alors là, j'aime autant vous dire que la SPA à l'époque, elle n'existe pas.
Parce que, ouais, on va avoir une succession de plans. Où on va voir voilà, des animaux se faire tirer, on est à la chasse.
Mais un vrai abattage, c'est-à-dire que c'est vraiment filmé comme ça. C'est-à-dire que t'as littéralement, bah, comment est-ce qu'on montre que t'as un mec qui dégomme un lapin? Bah vas-y, lâche le lapin, bam! Il n'y a plus de lapin.
Et ce qui est assez dingue, c'est que bon, là, peut-être le moment où le film est le plus explicite sur le massacre auquel tout le monde participe et auquel tout le monde est plus ou moins responsable. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on disait au début qu'il y a un vrai travail graphique sur le film, des plans... très léché, très léché.
Non, mais c'est toutes les filles par un. C'est ça la règle du jeu pour moi.
Non, mais c'est des plans très travaillés avec un vrai sens du plan large où Renoir sait laisser les personnages évoluer. Là, c'est la seule fois du film où on va avoir des plans aussi cut, aussi rapides, aussi violents. Où en fait, c'est voilà, il a raison, Raphaël, on voit des animaux se faire abattre en l'espace de 50 secondes, une minute, on en voit une vingtaine se faire fusiller.
Alors, ça, c'est marrant que tu dises, parce que sur le moment, j'avais pas du tout fait gaffe, parce que, encore une fois, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de bases qui sont posées pour des films qu'on voit aujourd'hui, mais ces scènes hyper courtes, c'est juste le temps de une seconde ou deux secondes sur lequel tu vois juste un animal se faire dégommer. Et en fait, bah, c'est hyper fondateur des cuts qu'on a aujourd'hui. Pour montrer l'action, c'est plein de petits cuts qui vont très vite.
Le mec savait faire déjà en 39. C'est-à-dire, si vous voulez dynamiter de l'action de manière rapide, le mec en 39 savait qu'il suffisait de le pas faire. Enfin, il suffisait de le faire par un montage ultra rapide.
Mais je pense que c'est ce qui rend aussi ce film aujourd'hui intéressant. C'est-à-dire que il y a toujours des trucs un peu désuets dans la manière dont ils ont de parler, dans la manière dont ils ont d'interagir ou de jouer même, qui est un peu particulière. Mais même s'ils jouent, enfin, pour moi, ils jouent très très bien. Ça, c'est pas la, il y a pas de question. Mais
surtout le Casimir.
Surtout que. Casimir.
Bah oui, Casimir le dinosaure. C'est lui qui joue le comte de La Fontenay, non? On n'a pas vu la même version.
On a peut-être pas vu la même. Bah, je sais pas, ils se mettent tout nus à la fin. Moi, on a pas vu la même version, non?
Non.
Moi, ce que moi, c'est en fait, c'est deux heures d'explication de. Alors, Monopoly. D'abord, vous allez commencer par sélectionner un petit personnage qui vous représentera durant le jeu. Bon, c'était pas mal, hein. Il y avait de l'audace, quoi.
Bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est le meilleur film de tous les temps, mais...
Je comprends pas ce qu'il y a de... Voilà, quoi.
De toute façon, moi, le cinéma, ça a jamais été mon truc, je dois pas comprendre.
Ah, j'ai trouvé que c'était magnifique, personnellement. Oh, j'ai vu un autre truc, c'était un peu plus chiant. Il y a un truc qui s'appelle Citizen Cut, j'ai rien compris non plus, là.
Il y avait pas de plateau, il y avait pas de...
Il y a même pas les pions. Comment tu veux jouer sans les pions? Ils expliquent même pas le principe à la base.
C'est qu'une cinématique qui a duré 2 heures.
Oui, c'est ça. Puis après, je me dis, écoutez, c'est très bien pour introduire votre film. On sent qu'il y a, enfin, votre jeu, on sent qu'il y a une histoire derrière. Maintenant, j'aimerais bien avoir un petit peu le gameplay. Comment ça se passe, quoi?
Comment je gagne les points, moi?
Ouais, bon, c'est très bien tout ça. Ok, donc il faut viser la luge. Je comprends pas.
Il y avait une vanne à faire, évidemment, on l'a faite.
C'était quoi?
Bah, le fait que ça s'appelle la règle du jeu, quoi.
Ah bah putain, tu m'étonnes qu'on va la faire cette vanne.
Et non, bah donc du coup. On était en train de dire qu'ils sont en train de fusiller tous les lapins.
Donc c'est une scène, franchement, si t'es vegan, tu vas pas la voir. C'est hyper... En plus, c'est de la chasse, tu sais, aujourd'hui, ce qui est un peu interdit, ce qui est encore autorisé dans certaines régions, mais c'est la battue. C'est-à-dire que c'est vraiment la chasse de lâche, quoi. Tu mets des mecs avec des guns à un endroit fixe, t'as les autres qui se mettent de l'autre côté de la forêt, qui arrivent en tapant avec des bâtons sur les arbres pour faire venir les animaux. Donc,
alors, bon, on est là pour satisfaire le plaisir du bourgeois, hein. C'est vraiment ça. Et
d'ailleurs, même ils s'engueulent, il y a même deux bourgeois qui s'engueulent parce que, ah là là, t'as tiré mon lapin alors qu'il était sur mon truc.
Non, mais c'est pour te dire, en fait, la préoccupation de ces mecs, c'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, ils se préoccupent de c'est moi qui ai tiré le lapin et pas toi. Et en même temps, il va y avoir ce moment où Catherine de la Chesnaye, donc la go que tout le monde essaie de pécho.
Voilà, parce que à part tirer les lapins, ils vont essayer de tirer Catherine. Voilà.
Alors voilà.
Christine, je sais plus comment elle s'appelle.
Christine, pardon, je dis Catherine, elle s'appelle Christine, évidemment. Et donc, il va y avoir ce moment où Christine chope une paire de jumelles pour regarder au loin les petits lapins se faire éclater la cervelle sanguillonnante.
La manière dont ils ont de présenter les jumelles, d'ailleurs, c'est un vieux général qui fait « C'est une invention extraordinaire. Grâce à cela, nous pouvons regarder de loin comme si nous y étions de près.
» C'est vraiment ça, en plus.
T'as l'impression d'entendre la réclame des années 40, tu sais.
avec Digimax, visionner tout vos films en quatre couleurs.
Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que Christine prend ses jumelles, cette grande invention dont vient de parler Raphaël, regarde loin et en fait découvre d'un coup son cum en train de rouler une galoche à la meuf qu'il a essayé de galer au début du film.
Exactement.
Et pour moi, et je pense aussi pour le bouquin que j'ai lu avant de préparer cette émission, c'est vraiment le moment où le film passe de la comédie à la tragédie, parce qu'à partir de là, en fait, on va plus du tout rigoler. Ça va devenir... C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où on n'est plus innocent. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout le monde est au courant de tout.
Alors, voilà. Moi, je pense
et
que plutôt...
les deux seuls qui vont continuer à jouer les innocents, c'est Christine et André Jurieux.
Plutôt, moi, je dirais qu'en fait, le décor est posé. Toutes les relations entre tous les personnages sont posées, à part une relation dont on vous parlera pour le twist de fin, t'as eu. Mais
on sait que tout le monde a ses raisons.
Après ce moment, on a tout qui est construit, tout qui est posé pour que se déroule devant le spectateur, en fait, un drame avec, quand même, pour moi, il y a quand même encore des moments comiques, notamment le moment qui a vraiment vaudeville où ils vont se poursuivre, mais ça, on en parle.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour moi, on est passé dans une tragédie où il va y avoir des moments drôles, alors qu'avant, on était dans une comédie où il pouvait y avoir des relents dramatiques. Mais c'est le seul moment où tu disais tout le monde a ses raisons, ça y est, on paraphrase, chacun... On est au courant de tous les personnages, de toutes leurs motivations, et on sait que les deux seuls qui vont continuer à faire semblant, en fait, de n'avoir rien vu et de jouer aux amoureux transis ou à ceux qui veulent croire en l'amour, et c'est Christine qui va faire semblant quasiment de ne pas avoir vu son mari la tromper, et André Jurieux qui sait que être avec Christine c'est quelque chose d'impossible. Et Octave va lui rappeler plusieurs fois dans le film, elle est pas de ton rang, cette femme tu peux pas la combler dans la vie, elle a rien à voir avec toi. Et pourtant lui il va être persuadé que si il peut vivre une histoire d'amour avec elle et tout. C'est les deux seuls qui vont s'obstiner à jouer aux innocents. Alors que les autres sont des machines. Ces machines que présentait
Skynet.
Christine de Fontenay.
La partie de chasse est donc terminée et ça va être un petit peu l'heure de la teuf, hein, parce que qui dit la fistinière dit énorme teuf où on s'éclate tous.
Ah bah c'est violent. Ouais.
Ouais, c'est hyper vénère. Du coup il y a plusieurs choses qui se passent. C'est-à-dire que d'abord il va y avoir un spectacle antisémite. Ensuite...
non mais tu vois à nouveau là, moi, je trouve, c'est là où Renoir il est dingue, c'est-à-dire que il est capable de replacer vite fait ce dont il a envie de parler, c'est-à-dire de mecs qui sont en train de rigoler de ça. Ils font un concert où ils chantent des chansons de l'armée, où à un moment en plus ils se jouent d'une imagerie de mecs avec des barbes. À un moment en plus on a eu un domestique qui a balancé clairement un propos antisémite, mais genre juste en servant les assiettes quoi. Et c'est vrai que cette teuf elle est un peu chelou, t'as envie de leur dire. Les gars, est-ce que vous êtes conscients que vous jouez avec des trucs ? Là, le monde est au bord du gouffre, on est en 39, quoi.
En plus, il n'y en a qu'une qui se marre, c'est Christine. Elle rigole en allemand, en plus. C'est hyper bizarre.
Elle se frotte les mains.
C'est
super bizarre.
Du coup, il y a cette teuf, et pendant cette teuf, va se dérouler, en fait, un petit peu tout le côté, justement, vaudeville dont je parlais tout à l'heure, avec ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tous les couples entre eux vont commencer à se foutre sur la gueule, c'est-à-dire que tu vas d'abord avoir Marceau qui va encore une nouvelle fois essayer de violer la petite Lisette.
C'est super gênant à regarder aujourd'hui, ça.
C'est hyper gênant. Du coup, son mari va intervenir parce que c'est sa femme et il a pas forcément envie de...
Non,
de,
c'est parce qu'il est contre le viol et il pense que chaque femme doit pouvoir être libre de son choix.
Alors, si c'était pour ces raisons, ce serait bien. Mais c'est juste parce qu'il a envie de casser la gueule à Marceau qui l'emmerde bien. Du coup, il le poursuit. Alors, il le poursuit avec un gun.
Oui.
Ce qui n'a pas l'air d'étonner grand monde parce que tout le monde est un petit peu...
Mais c'est ça. Personne ne fait attention à ce qui se passe. C'est le moment aussi où le film est à nouveau super explicite. Il y a des coups de feu qui sont tirés dans le château. Les mecs commencent à se tirer au gun devant tout le monde.
Ils en ont rien à secouer.
Et les mecs continuent de danser, quoi.
Normal. Donc voilà, t'as ça d'un côté. De l'autre côté, tu vas avoir Christine, qui, bon, clairement Christine pour moi je ne peux plus la voir, hein, cette meuf. C'est-à-dire que elle attrape par la main un mec dont qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Saint-Gobain, là, bref, il fait des savons, je crois. Je crois qu'il fait des salles de bain là.
C'est Saint-Aubin.
Saint-Aubin, bref, bon, il fait des trucs. Elle attrape par la main et ils disent on y va.
Elle lui dit en plus un truc, j'en ai marre de ce théâtre.
Oui, c'est
j'en
ça.
Ai assez de ce théâtre.
J'en ai assez de ce théâtre.
Donc c'est vraiment la meuf est consciente que d'un coup, voilà, j'en ai marre que tout le monde fasse semblant que bon, même si c'est elle qui fait le plus semblant.
Et du coup, elle l'entraîne dans une salle, clairement pour aller discuter tricot. Du coup, il s'exile. T'as André qui voit ça, il a hyper le seum.
Il arrive, il lui fout un soufflet.
Ouais, il le violente, hein, on peut le dire. C'est, ouais, c'est... Et l'autre lui dit, mais je ne vous permets pas, de quel droit.
Non, comment il lui dit un peu, genre, Barry Lyndon, demain vous verrez mes témoins arriver et tout. Et le mec, il a fait genre, balance-les tes témoins, viens, on se pète la gueule maintenant, quoi.
Et c'est ça qui est très marrant, parce que du coup, André, comme il vient pas du tout de ce milieu, tout l'autre, il fait, viens avec tes témoins, on va se tirer dessus. Il fait, t'es un bouffon, enfin, je te casse la gueule tout de suite, là. Je te casse la gueule, je te bute et je prends la go.
Je suis pas ma go, quoi.
Je suis pas ma go. L'autre fait, ouais, mais voilà. Du coup, ils commencent à se battre. Alors, ils se battent un peu comme des enfants de 14 ans, hein, pour le coup.
Ça se tire les cheveux, quoi.
Ouais, c'est ça. On sent qu'ils sont pas habitués à se battre tous les jours non plus. Mm. Mais André prend l'avantage parce qu'il est clairement un petit peu moins... Bon, c'est un petit peu moins...
Bah, c'est un peu plus un sportif. C'est quand même un aviateur.
C'est ça, qui est un grand sport, hein, l'aviation, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que comme c'est toi qui bats des ailes, c'est hyper compliqué.
C'est
quoi.
Super chiant. En plus, quand tu dois faire toute l'Atlantique. En plus, on a dit qu'il a poussé le bateau sur toute l'Atlantique.
En plus, une horreur.
Il y a eu toute une séquence qui dure 20 minutes au début du film où il s'étire, il explique pourquoi. Mais ça, c'est assez...
Alors, je voudrais pas me faire de claquage, donc je vais vous montrer. Ça commence par bonjour, je suis André Rieu. Vous m'avez vu dans des films tels que.
Comment il s'appelle dans les Simpsons?
Ah, je sais plus le mec.
Bonjour, je suis Trump McClure.
Ah, et Trump McClure. Vous m'avez vu dans des films tels que réussir votre cuisine au four.
C'est ça, et à chaque fois, et comment brancher mon micro-ondes.
C'est ça. Alors là, du coup, t'as vraiment André Rieu qui se fait, je l'appelle André Rieu désormais, qui se fait vraiment 20 minutes d'échauffement. Et puis en fait, comme il bat beaucoup des ailes, bah en fait, c'est Hulk. Il a des énormes bras, il est très très musclé.
qui font la taille de son torse en plus.
Voilà, c'est ça, il dépasse.
C'est super gênant.
Il sort du cadre avec ses bras. Alors du coup, quand Saint-Gobain lui dit viens, on va boire, il lui fait un. Il lui fait un rire du genre. Non.
Moi, il gosserait.
Moi. On m'a dit, Moshindeiro.
Nani.
Nani. Donc il se fait désinguer la gueule et arrive sur ce le mari légitime.
Non, excuse-moi, non, on n'y est pas encore parce qu'en fait pendant que Saint-Aubin et André sont en train de se chamailler dans le couloir, on voit que Robert continue d'organiser son petit spectacle devant ses convives. C'est-à-dire que c'était un magnifique petit spectacle où chacun est venu déguisé. Alors on a vu Octave, donc Jean Renoir, déguisé en ours. Et après, il y a ce truc un peu gênant où il y en a un qui est habillé en squelette et il commence à danser.
C'est hyper gênant comme moment parce qu'il danse mal, mais bien.
Ouais, et puis il est censé être habillé en noir pour qu'on voit que les os, mais sauf qu'on voit clairement que c'est un mec qui est habillé... Bref, on est en 39, allez,
les effets spéciaux
de l'époque, hein. On pardonne, ouais. Mais c'est en fait, le clou du spectacle, c'est censé être le moment où Robert présente sa nouvelle acquisition... ce qui est très drôle, et ça c'est vraiment...
Qui est une négresse romantique de 2 mètres de haut. Ça vous plaît ?
Non, il présente une sorte d'harmonium de dingue, et alors là je l'ai lu, je l'invente pas, mais du coup je me dis qu'en plus ça sert vraiment le truc, c'est que pendant tout le discours, il va confondre l'art africain avec l'art sud-américain. Faut être placé, hein, faut être Jean Renoir pour être calé... un détail pareil, mais ce qui en fait traduit vraiment en fait, un peu la bêtise de ces milieux qui confondent un peu tout. Il présente sa nouvelle machine, et en plus il y a un plan qui est assez dingue qu'on a vu ensemble, où il y a un panneau sur la machine et qui se termine sur le visage de Robert pour nous dire qu'en fait, voilà, Robert est comme sa machine, c'est un mec qui réagit mécaniquement pour servir sa cause, quoi. Il présente sa machine, il s'en va, et là, il croise André qui est en train d'essayer de pécho sa meuf.
Et du coup, bah, il est pas très content. Du coup, il dit, bah, écoute, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que bon, je veux bien que Saint-Gobain, il me refasse ma salle de bain, mais...
mais en plus, il y a un truc super chelou de « tu me piques pas ma femme sans m'avoir demandé ».
Voilà, c'est hyper... En fait, c'est très marrant parce qu'on sent qu'il y a un petit peu une moquerie aussi de ces milieux très... voilà, genre, ah bah, vous viendrez demain à 6h avec vos témoins et nous nous tirerons dessus. Bah non, je te casse la gueule tout de suite, comme ça c'est réglé. Et là, c'est bon, non, mais si tu me piques ma femme, tu me fais une lettre de 15 jours de résiliation avant parce qu'il faut que je me prépare. Tu vois, ça, c'est comme pour quitter un appart, il te faut au moins 3 mois pour le. 3 mois de préavis, tu vois.
Sans déconner, c'est ça parce qu'en plus, les autres lui disent, tu vas pas supporter combien te coûte Christine si tu te mets avec elle.
Non, mais c'est ça.
T'as pas les moyens.
Voilà. Et du coup, il y a ce côté très... t'as André qui fait « Bah non, enfin, je la prends et puis je te casse la gueule aussi si t'es pas d'accord. J'ai déjà cassé la gueule à la salle de bain. Si tu veux que je te défonce, il y en a pour deux, quoi. »
Il commence à se péter la gueule. En même temps, on voit le garde-chasse essayer à nouveau de poursuivre Marceau. Et en fait, ça devient un tel bordel dans le château...
Tout le monde se met à courir.
Ouais, Jurieux et Robert sont obligés de se mettre plus ou moins d'accord. Et ils ont un truc où, limite, ils deviennent potes. Tu sais, en fait, t'as l'impression de voir un film où, en fait, un peu Batman versus Superman, tu vois, ils découvrent qu'en fait, ils ont leur maman a le même nom et puis ils deviennent meilleurs amis. Et non, sans déconner,
c'est quoi le nom de ta meuf, Christine? Ouais, oh, sans déconner.
J'en ai la même meuf.
Tu tournes à la même meuf, mon gars.
Sans déconner, bah putain, mais je réalise, c'est ça. Hein.
Ouais, en fait, c'est la même chose.
Batman versus Superman, c'était exactement ça le moment.
Donc
où...
on vous conseille de regarder La Règle du Jeu, Les Petits Mouchoirs, puis
Batman versus
Superman.
Il y a une sorte d'ordre tout à fait logique. Et c'est une manière de dire le et. Et du coup, en fait, ils se mettent d'accord. En fait, ils ramènent tout le monde dans leur chambre. Robert est assez vénère d'avoir vu son garde-chasse tirer devant ses convives. Donc, il lui dit, je vous vire.
Voilà.
Vous êtes renvoyé. Il vient voir Marceau, avec qui il avait une sorte de sympathie.
C'est
parce qu'on sentait que Marceau, c'était le seul qui savait le caresser dans le sens du poil.
Mais en fait, ouais, il sait lui parler tout en étant très...
Le truc un
en
peu...
En fait, Marceau, c'est vraiment le... Comment dire, un peu à la Scapin, tu vois. C'est-à-dire que c'est le servant qui est très ami avec son maître... à tel point qu'il se permet des choses que normalement t'as pas le droit de faire quand t'es domestique, quoi.
Bah, un truc qui est traduit dans le film par c'est les deux seuls personnages qui se tutoient quasiment.
Ouais, clairement.
En tout cas de classes différentes, puisque les bourgeois entre eux se tutoient,
ils se voient.
Bah Octave il tutoie tout le monde, il est
Octave,
tellement
mais parce que Octave encore une fois a transgressé.
Oui, c'est vrai, pardon,
vois.
Oui, t'as raison. Et Octave, sauf qu'Octave c'est comme Marceau, c'est le seul qui sait comment
c'est
ça fonctionne.
Eux ils peuvent, mais les autres se vouvoient, hein. Même entre domestiques ils se vouvoient. Je crois qu'il y a que Lisette et Marceau qui se tutoient.
C'est le vrai bordel. Tout le monde retourne dans sa chambre et Octave en fait amène Christine dans un coin. Et en fait, ce que nous on sait mais on a oublié de vous dire, c'est que Octave en fait était un très vieil ami du père de Christine.
Voilà.
Et c'est lui qui a ramené Christine en France. Et il commence à avoir une discussion et...
Il l'a ramené un petit peu comme il ramène une Dacia, tu vois. Enfin, c'est...
Exactement, ouais.
Je suis allé en Autriche, j'ai trouvé...
Il a payé la taxe et tout, quoi. Donc Octave est avec Christine, il commence à parler. Octave, il lui raconte une anecdote sur son père.
Sur le père de Christine, ouais.
Et en fait, Christine commence à comprendre, puisqu'il y a sa domestique qui arrive, et elle comprend que sa domestique aussi est au courant. Elle commence à réaliser qu'en fait, tout le monde, sauf elle, était au courant que son mari l'a trompée. Et c'est vraiment le moment où elle est totalement confuse. Et donc, Christine est en train de parler avec Octave. Octave lui raconte une anecdote sur son père. Et puis, en fait, Christine va comprendre rapidement, et ça va beaucoup l'énerver, surtout quand elle va en parler à sa domestique, que tout le monde était au courant que son mari l'a trompée. Et c'est le moment où Christine, en fait, perd toutes ses illusions. Et c'est le moment où elle est la moins innocente. Et en même temps, c'est là le moment où elle se raccroche le plus à cette idée-là. C'est-à-dire qu'elle se dit, OK, je peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre face à cette réalité-là. Et elle va commencer à dragouiller Octave.
C'est-à-dire qu'elle aura son mari, André Rieu, Saint-Gobain
et Octave.
Octave. Enfin, c'est vraiment...
Moi,
je vous le dis, je déteste le personnage de Christine.
Moi, j'ai beaucoup de... Ouais,
moi, je la trouve détestable, moche en plus. C'est-à-dire que tous les mecs lui courent après. Elle est vraiment... Il y a deux, trois plans de près, tu fais « Wow !» Les critères de beauté à l'époque,
c'est pareil, parce que tous les malheurs arrivent, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis cette manière d'arborer une moustache fièrement, enfin, moi, personnellement, ça me... Donc elle est très
crache son discours politique comme une ponctuation.
Je la trouve excitée, elle est énervée, tu sens qu'elle a un truc à cacher, je sais pas quoi. C'est peut-être cette manière qu'elle a d'avoir désarmé tout le temps derrière elle. Il y a rien derrière, je vous jure.
Mais et en plus on voit à ce moment-là un truc horrible, c'est que de leur coin Robert et André Rieu comme dira sont en train de monnayer Christine, en train de dire bon allez je vous la laisse. Parce qu'en même temps, du coup, Robert, il comprend, il se dit, bon, elle sera pas heureuse avec moi, qu'est-ce qui me sert le plus? Il réagit à nouveau comme une machine, ok, c'est qu'elle soit avec André Jurieux. André Jurieux, comment financièrement vous allez réussir avec ça? Ok, et il commence à établir des solutions de paf, 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 on va se démerder de telle manière. Sauf que de l'autre côté, Octave est en train d'y croire, en fait. C'est Octave qui était le personnage le plus sensé.
C'est ça.
À un moment où il se dit, en fait, allez, moi aussi j'ai le droit de rêver, je veux peut-être partir avec Christine que j'aime, finalement. Christine enfile le manteau de sa domestique.
Ouais. Un joli manteau que venait de lui offrir son mari.
Exactement. Et ils décident de partir avec Octave. Ils disent, en pleine nuit, viens, on s'en va. On va débuter une nouvelle vie. Ils partent dans le jardin et ils s'arrêtent près d'une orangerie.
Et dans un buisson, en fait, il va y avoir Marceau et le garde-chasse. Le mari est conduit de Lisette, qui viennent tous les deux de se faire virer par le comte. Et donc, le manteau qui a été offert par ce garde-chasse à Lisette, ce qui se passe, c'est que elle est tout encapuchonnée, la Christine. Du coup, le garde-chasse est persuadé que c'est sa femme qui est en train d'avouer son amour à Octave.
Il se dit, je suis triple cocu.
Je suis triple cocu, il a un peu le seum. D'ailleurs, Marceau lui fait, ouais, bon, écoute, c'est pas cool, hein, tu devrais lui casser la gueule. Je lui dis, mais mon gars, mais la ramène
non,
pas.
Mais en plus, tu vois, Marceau, qui pendant tout le film a manqué de se faire buter par le garde-chasse, à nouveau, il sait exactement comment parler au garde-chasse.
Ouais.
Le garde-chasse lui a pardonné déjà d'avoir couché avec sa femme.
Mais en fait, avant même qu'il y ait ce moment où il voit sa femme, tu les vois tous les deux, ils viennent de se faire virer, ils sont tout penauds sur un banc.
Ils parlent de bah, qu'est-ce que tu vas faire, bah moi je vais rester dans le coin et toi bah je sais pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc ils sont très liés en fait, même dans ce malheur, et ils vont être très liés dans un acte qui va suivre très vite, parce qu'en gros du coup Octave dit à Christine, écoute, on se casse tous les deux, viens on prend des billets, on va à Rio tranquille. Il dit, attends, bouge pas, je vais chercher mon chapeau. Il rentre au château et là, en gros, il parle avec Lisette, c'est ça?
Ouais, et qui lui dit à quel point c'est une stupide erreur de faire ça. Et en fait, elle le ramène à la raison, tout simplement. Elle lui rappelle la règle en mode, non, rappelez-vous que c'est pas ça, c'est pas l'innocence.
Tu dois faire un double dé pour pouvoir sortir de prison.
Tu peux pas partir avec la fille comme ça. Tu peux pas. Il faut que tu la délivres d'abord.
Tu pars d'abord par la case départ et là, tu touches 200 francs.
Bon. Et en fait, d'un coup, il a une sorte d'éclair où il se rappelle, bah oui, non, je peux pas faire ça. Et il voit André Jurieu et il lui dit, vas-y, elle t'attend, Christine t'attend, elle est à côté de l'orangerie et vous partez maintenant. Tiens, prends mon chapeau, prends mon manteau, barrez-vous. André Jurieu.
André Jurieu, vous avez préparé votre sac, vous êtes attendu à l'aéroport, un avion part dans 2 heures.
Le train pour une nouvelle vie vous attend.
Mais fonce, je te dis, il va le prendre, putain.
Un peu comme une comédie romantique, André Jurieu court pour rejoindre Christine, arrive devant l'orangerie. Et là,
il va moins bien courir parce qu'il se prend une décharge de fusil dans la gueule.
Comme les petits lapins qu'on a vu se faire fusiller quelques minutes avant.
Et d'ailleurs, il tombe un peu comme un lapin, c'est-à-dire coupé dans son élan, quoi, fauché le mec.
C'est exactement ça. Et à nouveau, en fait, parce que ces hommes sont là pour arrêter la nature et l'innocence, c'est vraiment, ils l'abattent en pleine course.
Ah bah, ils le butent, mais violemment.
Christine sort de l'orangerie, enlève sa capuche, tout le monde comprend qu'en fait, c'était pas Lisette, c'était Christine. Merde, on a tous merdé. André Jurieu est mort. On ramène son corps et Robert, donc le maître de ces lieux, ramène tout le monde autour de lui et en fait va appliquer la règle du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les innocents. Non, mais c'est vraiment ça, il n'y a pas de place pour les innocents, et va inventer un truc en disant, enfin même pas inventer, il dit voilà, c'était un accident.
C'était un accident, voilà.
C'était un accident.
Il a cru que c'était le garde-chasse a cru que c'était un intrus, donc il a tiré dans son bon droit, quoi.
Il n'y a pas de place dans ce monde pour les innocents, c'est-à-dire qu'on est là juste pour jouer aux mecs qui vont se cacher la vérité. C'est vraiment, le film se termine sur un truc que tout le monde a vu et personne ne dira, en mode non, le film ne peut pas être plus explicite.
Ouais.
Il se barre, tout le monde remonte au château et il y a ce dernier plan qui est assez dingue où il filme que les ombres en fait, il remonte et le film s'arrête là-dessus. Mais le film sort, c'est pas une blague, hein, un mois et demi avant le début de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Le mec a tapé, mais tu peux pas faire plus juste.
Ouais.
Et c'est ça aussi peut-être qui en fait un si grand film, c'est que le mec a tapé hyper juste au bon moment, mais il a appuyé là où ça faisait tellement mal, quoi.
Voilà, c'était donc la règle du jeu. Ça termine du coup sur ce côté un petit peu hyper angoissant avec ces ombres. En fait, t'as pratiquement l'impression que c'est un régiment qui avance qui avance droit vers la guerre et que du coup, on extrapole un petit peu, on est en classe de quatrième et on dit alors qu'est-ce que l'auteur
qu'est-ce qu'il voulait dire en écrivant ça?
Oh bah sûrement il voulait dénoncer la guerre. Hein.
Ah bah oui, c'est une mauvaise chose.
Ça c'est clair et net. Hein. Ça se voit avec tous ces clans parce que si tu regardes, il y a des coupes où tu vois des petites armées allemandes qui marchent en bottes. Hein. C'est très subtil.
Il y a un petit hommage à Fight Club parce qu'il y a une belle image de beat.
Exactement.
C'est moi qui me suis trompé de version.
Peut-être toi qui t'es trompé. Ils finissent tout nus ou pas dedans?
Oui.
Ah bah voilà, c'est la bonne.
Non, c'est pas la bonne.
Moi, je te confirme, on voit pas un bout de téton. C'est extrêmement décevant.
Ah, moi, on les voyait bien.
Non, oh, putain, bah là. Tu me passeras la copie de ton film et puis voilà, on n'en dit rien.
Jean Renoir. C'était le film de Jean Renoir.
Mais voilà, donc c'est un film, moi, personnellement, qui m'a beaucoup plu. Je n'avais jamais vu avant. C'est Gaspard qui m'a un peu introduit à ces notions.
Comme Jean Renoir.
Et qui m'a fait tout plein d'émotions et tout plein de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont utilisées aujourd'hui dans les films qui viennent de ce film-là, et puis surtout c'est un film qui m'a appris à me méfier des Allemands,
ouais.
Parce qu'ils ont toujours une petite envie de guerre derrière la tête. Alors là,
ah bon, allez, on va dire qu'elle était autrichienne quand même dans le film.
Ouais, bah c'est presque pareil.
Mais c'est
hein.
Vrai que si tu as raison, sa moustache et sa petite mèche sur le côté pendant tout le film la trahissent un peu, quoi.
Voilà, donc moi ce sera marrant.
Elle m'a fait penser à un acteur, mais je me souviens plus du nom.
Je sais pas, mais un type qui a cartonné.
Bah oui,
sûr.
On l'avait vu hein, dans un autre film.
Donc voilà, moi je vous recommande de manière générale toute cette époque hein, des années 40. Il s'est passé des choses assez formidables.
après l'épisode d'avant, on conseillait les années 2000. Voilà. Ah, vraiment, les années 40. Hein.
Les années 40, il s'est passé quelques petits trucs. Je vous conseille de faire attention à ce qui se passait en Amérique latine à ce moment-là, c'est là que c'était un peu chaud, quoi.
C'était le moment d'investir, en tout cas. Exactement. Si tu voulais vendre 4 ans après, c'était le moment.
Après, c'était trop tard. Ouais. Après, t'as la CIA qui vient s'y loger.
En tout cas, à Paris, à partir de juillet 40, il n'y avait plus grand problème.
Il
n'y
a plus trop de problèmes.
Vous pouviez y aller.
On pouvait construire comme on voulait, et puis bon, avec les Allemands, on a beau dire, hein, mais au moins ça file droit, quoi.
Bah, c'est-à-dire que...
Il y a moins de racailles, hein. Moi, je le dis comme ça, hein.
Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un film que j'avais déjà vu, pour la péter, dans ma culture personnelle. C'est un film que j'avais déjà vu parce que, voilà, je savais qu'il faisait partie du top of the list, quoi. Mais là, en le revoyant, bah, en fait, maintenant un peu plus mûr, un peu plus âgé, je suis assez impressionné par la pertinence du film et comment, en fait, on comprend exactement où il veut revenir et c'est pas du tout lourdeau. C'est-à-dire que c'est le deuxième film qu'on fait. On a fait un premier film qui était horriblement lourdeau sur ce qu'il essayait de dire. Je vais tenter une comparaison entre Les Infidèles et La Règle du Jeu. Oui, oui, oui.
Ah, je pensais que je parlais de Citizen Kane, qui est vraiment hyper lourd comme film, j'ai trouvé.
C'est hyper relou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que L'Heure est grave, ça sert à ça. Ça sert à comparer Gilles Lelouch et Jean Renoir. Et
pour vous dire que Gilles Lelouch est quand même beaucoup plus beau garçon que Jean Renoir.
C'est vrai. Mais en tout cas, Gilles Lelouch ne sait pas faire un film sans être pas subtil du tout, du tout, du tout, du tout. Là où Renoir, putain, mais c'est d'une maîtrise, c'est hallucinant.
Ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup de... Un super travail de mise en scène, un super travail de film, d'image et d'histoire, parce que c'est bien
un film d'image,
aussi.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette phrase? C'est moi qui ai vu les films ou j'ai vu les dessins.
Un film d'environ 64 images par seconde, si je me trompe pas.
Tu te trompes carrément, puisque c'est 24.
C'est un dessin animé.
64, ça n'existe pas.
Eh ben si, un film hyper fluide. Voilà.
On frôle la crise d'épilepsie.
C'est non, en fait on a regardé Enter the
Void. C'est un film qui m'a fait baver, hein. J'adorais ouais, ça.
J'ai bavé littéralement, c'est-à-dire que j'ai bloqué de seconde 1 jusqu'à la fin et je bavais.
Ah, 3 cuillères en bois il m'a fallu.
Ah, j'en suis venu à bout, mais alors qu'est-ce que ça m'a coûté en cuillère en bois? Alors du coup, Gaspard, peut-être une petite recommandation de ta part également?
Ouais, j'avais pensé une vanne, mais en fait j'en ai pas eu. Du coup, je vais conseiller facilement en fait Gosford Park de Robert Altman, qui est un film qui reprend en fait la même structure d'un grand week-end de chasse comme ça, où il va y avoir l'assassinat du propriétaire, et en fait ça va devenir une sorte de Cluedo sur la même structure que La Règle du Jeu, c'est-à-dire les domestiques en bas, les bourgeois en haut, et il va se jouer à nouveau de cette dualité.
Jeu, règle du jeu. On termine sur un bon un
t'as
bon
une petite reco, toi?
Eh ben, je viens de la faire, les années 40. Voilà. Donc, je vous recommande les années 40 de manière générale. Hein, ça a été riche en émotions pour tout le monde.
On s'y attendait pas. Hein.
On s'y attendait pas beaucoup, non. Et puis, c'est pas fini, ça ne fait que commencer.
On se retrouve la semaine prochaine, justement, pour un prochain épisode consacré cette fois-ci à une bande dessinée, puisqu'on va parler d'un autre chef-d'œuvre du genre.
Exactement.
Pascal Brutal de Riyad Satouf.
Et alors ça, je vais autant vous dire que c'est pas la même limonade.
Ouf, là là, Jean Renoir est encore en train de la lire. Et on se retrouve pour un prochain film, cette fois-ci donc dans un mois, au mois de janvier. Et comme pour la musique la semaine dernière, on aura un invité ou une invitée et qui choisira le film. Hein. On le dit pas encore, même si nous on le sait. J'étais ravi d'enregistrer cette émission avec toi, Raphaël, malgré le verre que tu as fait tomber il y a quelques secondes et que j'ai dû couper au montage.
Désolé. T'as coupé le verre au montage ?
J'ai coupé le verre au montage. Le verre a parlé pendant toute l'émission, on l'a coupé à chaque fois.
Putain, mais t'es trop con, c'est le moment où on entendait, là, j'étais en train de sauver la dame à côté.
Je sais, mais j'ai tout coupé.
Tu as
plus
pour la postérité ?
Non, mais tu sais, en plus, c'est le moment de l'émission où les gens ont arrêté d'écouter, donc on peut y aller. En général, quand ils ont compris.
Bon, je peux dire des saloperies, du coup. Hein.
Tu peux y aller.
Mugabe.
Un épisode consacré au cinéma dans un mois.
Et puis, la semaine prochaine, du coup, on vous parle pas de Jean-Claude Tergal, non. On vous parle de Riyad Satouf et de sa PD Pascal Brutal.
On en a déjà parlé, mais j'avais dit que c'était un vrai plaisir d'enregistrer avec toi.
Voilà. Et ben, c'était un plaisir d'enregistrer également avec toi ce soir, Gaspard. Je suis désolé pour ma voix et pour ma forme, puisque je suis un petit peu malade. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous tous.
On remercie l'hôpital Robert Debré de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cette émission, puisque Raph est actuellement sur son lit d'hôpital.
Voilà, et on va donc pouvoir...
Et au voisin, rebrancher le voisin
On va pouvoir débrancher les micros et rebrancher le voisin.
On le remercie.
Tu as arrêté de te plaindre, hein?
Oui.
Ah, il est chiant.
Il est marrant, c'est un caméléon, il change de couleur tout le temps.
Bon, là, il est bleu. Hein.
À la semaine prochaine pour plus d'informations culturelles.
Et bonne semaine à tous.
Ciao.
Un monde qui pleure et toujours l'indifférence et l'ignorance. Toutes ces douleurs et personne autour que des silences. Les autres avancent. Chacun de nous a sa route, sa propre vie, où tout s'apprend et tout s'oublie. Le monde a peur, et toujours cette insouciance. Les autres dansent, toutes ces erreurs. que d'amour, cette suffisance. Mon cœur balance. Chacun de nous a sa route, sa propre vie. Pour elle, le pouvoir et l'envie. Mais quelle est la règle du jeu? Dans l'ombre ou la lumière, se cacher derrière ses yeux ou les ouvrir au contraire. Quelle est la règle du jeu? Dans l'or ou la poussière, se cacher derrière son Dieu ou partager ses prières. Répondez-moi, je ne sais pas. Un monde qui meurt chaque jour sans s'effondrer. Tourne les heures, le compte à rebours a commencé. Et que serons-nous demain? Si le monde nous glisse entre les mains, et quelle est la règle du jeu? Dans l'ombre ou la lumière, se cacher derrière ses yeux ou les ouvrir au contraire. Quelle est la règle du jeu? Dans l'or ou la poussière, se cacher derrière son Dieu ou partager ses prières. Répondez-moi. C'est pas se cacher derrière ses yeux ou les ouvrir au contraire. Répondez-moi. Quelle est la règle du jeu? Dans l'or ou dans la poussière. Dites-moi. Se cacher derrière son Dieu ou partager ses prières. Tant pis pour les différences, puisqu'il en faut. Mais en avoir conscience est déjà trop. Dans l'ombre ou la lumière, se cacher derrière ses yeux ou les ouvrir au contraire. Quelle est la règle du jeu? Dans l'or ou la poussière, se cacher derrière son Dieu ou partager ses prières. Répondez-moi.
Excuse-moi, juste parce que j'ai placé une vanne que t'as pas cramée.
Non, en fait.
J'ai dit qu'il était fils de peintre en bâtiment. Son père, c'est Auguste Renoir.
Ah oui, le. Ah, mais je pensais que c'était un nom.
Non, c'est son père.
Oh putain.